qui marche comme ça, on met le micro comme ça, très bien. Voilà, si vous voulez bien parler avec moi, on va voir ce que ça donne.
Bon, on va commencer par parler un petit peu des débuts à Saint-Germain-des-Prés en 1946.
Oui.
C'est peut-être
d'accord.
Avant d'ailleurs. Hein.
Oui, eh bien, avant il s'est passé des tas de choses, mais enfin personne n'en sait rien. c'est à peine si je le sais moi, parce que je ne me retourne jamais. Voilà, avant Saint-Germain-des-Prés, il y avait le Saint-Germain-des-Prés que j'ai connu, mais enfin qui était vraiment, comme on disait, le village. Et tout ça s'est bien perdu, il me semble. Voilà.
Bon, on va démarrer sur des choses qui vous semblent peut-être banales, parce que vous les avez racontées plusieurs fois. C'est quand même quelques images de votre enfance. Moi, j'en ai relevé quelques-unes dans les coupures de presse ou dans les bouquins. Il y a... Tout d'abord, sans qu'on retrace un peu l'histoire de la vie de la famille Ferré, etc., il y a ce que vous appelez le premier acte d'homme, l'histoire des bananes à la frontière.
Oui. Oui, ben là, c'était étonnant de ma part, parce que j'étais un enfant très, très docile, un peu renfermé. Malgré l'œil, paraît-il, il paraît que j'avais un regard qui était inquisiteur, et je ne le savais pas. Enfin, il y avait, c'était la période du fascisme. Donc c'était en 1920, j'avais un an que j'étais là-bas, c'était en 1926-27. Et il y avait pour les bananes, il y avait une sorte d'interdit. Et je crois que les Italiens prétendaient prendre les bananes depuis l'Afrique, cette Afrique où ils ont voulu s'installer, quoi. Mussolini voulait s'installer. Et alors ma mère m'a donné 6 bananes, parce qu'on ne pouvait pas en trouver en Italie. Et 6 bananes, c'était important, ça me faisait manger des bananes tous les jours pendant 6 jours. J'aimais bien ça, et évidemment, au collège, il n'y avait jamais de bananes. Alors, je suis passé à la douane, et le douanier a vu les bananes. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, les bananes. Alors, il voulait me faire payer. Alors, j'ai pris les bananes, l'une la suite de l'autre. Je les ai toutes mangées, et en lui disant, les pots, vous pouvez les garder. Ce qui était étonnant, c'est pas ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait à cet âge-là. Ça m'avait frappé. Je vous le raconte parce que des fois, les mômes me font entendre leur voix, quoi.
Est-ce que c'est, on peut appeler ça un acte de révolte ou de distance par rapport à la vie?
Peut-être. Je crois que de ma part, en tout cas, c'était peut-être un acte de distance à l'égard de ce type.
Il y a un peu du mauvais esprit, quoi.
Non.
Avant que ce soit de l'esprit critique.
Non, je pense pas, non.
Non.
C'était vraisemblablement pas de l'esprit critique. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Dans tous les cas, c'était... c'est comme ça. Les pots, tu peux les manger. Moi, je mange le reste, quoi. Et évidemment, ce que j'ai compris confusément, c'est que je pouvais transporter, passer les bananes dans mon estomac et pas normalement dans le sac que m'avait donné ma mère dans lequel elle les avait mises, quoi. C'est ça que j'ai compris confusément et je l'ai fait, quoi. Et le type était furieux, bien sûr, il n'a rien pu me dire. En plus, j'étais jeune et il n'a pas osé non plus.
Vous étiez un enfant apparemment heureux, comme le sont tous les enfants, sans trop de problèmes. Et puis, il y a eu les années quand même d'internat.
Eh bien, c'était ça, l'internat. Vous savez, un jour, ma mère m'a apporté à la gare de Monte-Carlo. Et puis, j'étais en octobre 1925. J'avais donc, je venais d'avoir 9 ans. J'y ai donc été depuis ses jupes jusqu'à un dortoir, on était 40, où je suis, lorsqu'elle m'a lâché à la gare, en rentrant, je suis devenu le numéro 38. Et ça m'avait impressionné, bien sûr. Et on ne sait pas combien, à quel point ça peut impressionner un enfant de 9 ans qui part de chez lui, qui est en prison, comme ça, sans aucun jugement. Vous comprenez, la prison, je pense, c'est moins grave que le collège à ce point-là, quoi.
C'est l'apprentissage de la vie sociale?
Non, je crois pas, non. Peut-être que cette révolte qui m'a pris à ce moment-là et que j'ai renfermé, bien sûr, parce que c'était une époque où personne ne se révoltait. Vous savez, il y avait des hauts murs au collège, mais j'y suis resté 8 ans. Je n'ai pas le souvenir que quelqu'un soit jamais parti comme ça, alors qu'on aurait pu le faire. C'est extraordinaire. Les enfants étaient dociles. Il y avait bien certains de mes compagnons qui étaient plus méchants que d'autres, qui se laissaient moins faire, mais quant au fait qu'on a été renfermé, ils se laissaient renfermer et ils restaient enfermés. Mmh. Aujourd'hui, ça n'est plus possible et c'est très bien comme ça.
Comment est-ce que ça se passait en famille? Quel était le climat dans lequel vous viviez? À quoi on était attentif? De quoi on vivait? De quoi on parlait?
Vous savez, les enfants, à cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup, à part à table, on parlait comme ça. Et c'était vrai dans toutes les familles. Moi, j'avais de l'admiration, quand j'étais en philo, d'ailleurs, dans le 17 ans, pour un garçon qui vivait avec sa mère, et qui lui sortait le soir sans problème, comme ça. Il ne pouvait pas sortir le soir, il fallait que je demande l'autorisation, vous voyez. Mon père était un très brave homme, très, très sympathique, hein. Cela dit, c'était le pater familias, ça je l'ai dit souvent aussi, parce qu'on ne dit plus ces choses-là, parce qu'en principe, ça n'existe plus. Quoique, il n'y a pas longtemps, il y a 4 ou 5 ans, j'ai vu dans un journal des annonces, comme ça, il y a un pharmacien, qui s'appelait je ne sais plus comment, dans quelle ville, en France, qui donnait sa fille à marier, qui avait 29 ans. Quoi. Tel pharmacien a sa fille à marier, c'est extraordinaire, donc ça existe encore. Oui.
Mais on était attentif à quoi chez vous, les sujets de conversation, c'était l'actualité. Est-ce qu'on était attentif au monde environnant, à l'actualité
Peut-être moins.
Vous parliez de cette montée du fascisme, d'un moment que vous
oui.
êtes né en 26.
Oui,
effectivement,
je ne suis pas né en 26, j'ai commencé à l'école en 26.
Vous avez commencé à l'école en 26.
En 25 au collège, donc oui, je suis né en 16, oui, j'avais 9 ans quand j'étais
donc, vous êtes, cette enfance se déroule pendant sur fond de montée des fascismes.
Oui. Oui.
Est-ce qu'on est attentif à cela chez vous, ou est-ce que Monaco représente un peu cette petite vitrine tranquille qu'elle semble représenter aujourd'hui?
Non, moi personnellement, je ne m'en souviens pas parce que je ne m'intéressais pas à ça, puis on ne me laissait pas m'y intéresser, puis il n'était pas question que je m'intéresse, j'étais tout petit. Le fascisme, ça a été à partir de 1921-22. Je pense qu'à Monaco, on devait savoir et se mettre au courant, parce que c'était une ville quasiment frontalière, puisque qu'est-ce qu'il y a, c'est à 20 km, même pas à 10 km de la frontière. Cela dit, vous savez, vous me parliez de quoi parlait-on, des choses comme ça, qui se passent. On était moins agressés par les nouvelles du monde, parce que on ne le savait que assez en retard. Il n'y avait pas de radio. C'était le début de la radio en 29-30. Moi, je me souviens, j'avais un oncle qui avait une radio comme ça. C'était intéressant parce qu'il me faisait découvrir des choses. Et elle marchait avec des batteries, comme des batteries de voiture. Et à cet oncle-là, ce vieil oncle, c'était l'oncle à ma mère, j'avais demandé un jour, dis donc, quand est-ce que ça marchera avec le trou dans l'électricité, où il y a l'électricité. Et il m'a dit d'une façon tout à fait, ah, ça alors, je ne sais pas quand. Comme c'était une chose qui n'allait pas vraisemblablement arriver très tard ou pas du tout, vous comprenez. Donc, l'autre jour, je racontais à mon fils, qui est au courant des choses comme ça, par la télévision, tout ça. Je lui dis, tu sais, lorsqu'il y avait le Tour de France, on parlait du Tour de France, mais je me souviens, j'étais sur les remparts à Monaco, là où il y a le Palais du Prince, il y a des remparts, c'est là où je m'amusais, il n'y avait pas de voiture à ce moment-là qui passait. On m'autorisait, on me laissait dans la rue, donc sur les remparts. Eh bien, je me souviens que, donc, en 1925, 23, 24, on descendait à la Condamine, on descendait les escaliers, pour aller devant le journal qui s'appelait L'Éclaireur, de Nice et du Sud-Est, pour attendre les résultats de l'étape que le type de l'agence de Monaco de ce journal devait recevoir par téléphone. Et vous vous rendez compte, maintenant, ça n'a plus rien à voir, vous comprenez. Donc, on ne s'intéressait aux choses que lorsqu'on voulait bien, en définitive. On n'était pas au courant des choses. S'il y avait une révolution quelque part, on ne le savait que 15 jours après, j'imagine. Ou par les journaux, mais moi, je ne lisais pas les journaux. De toute façon, on ne parlait pas de tout ça à la maison.
On a parlé un peu, là, du monde environnant. Il y a quand même quelque chose de déterminant. Je l'ai lu à plusieurs reprises, là. Autour d'une anecdote, c'est votre approche de la musique. C'est Beethoven que vous entendez dans une crèmerie.
Ah oui.
Est-ce que c'est vraiment... est-ce que vous pouvez dater de manière aussi certaine votre réveil à la musique, ou est-ce qu'il y a autre chose?
Écoutez-moi, mon réveil à la musique, ça a été en faisant, en participant. J'avais peut-être 7 ans. Oui, parce qu'après que j'ai été au collège, il n'était plus question de chanter à Monaco. J'étais soprano à la maîtrise de la cathédrale de Monaco, qui était connue dans le monde de la musique, de ce genre de musique, parce qu'il y avait le type qui dirigeait cette mairie, qui s'appelait le Perruchot, le chanoine Perruchot, type connu pour les histoires de maîtrise et de musique d'église. Et je chantais. Et bien là, j'ai découvert la musique. Vous savez pourquoi? Parce que il m'avait appris à lire la musique, un peu le solfège. J'avais ma partie de soprano. Et à ce moment-là, j'entendais les autres voix. Il y avait au moins 3 autres voix, c'est-à-dire l'alto, le ténor et la basse. Et j'ai découvert la musique en écoutant les voix comme ça. C'était extraordinaire. Et c'est pour ça que je dis que pour connaître la musique, il n'est pas normal, et ce n'est pas utile d'abord, d'aller écouter les, d'aller acheter les 9 symphonies de Karajan par Beethoven, entre parenthèses, et que c'est d'abord, c'est, on peut pas, il n'est pas possible de rentrer à la maison, d'écouter les symphonies comme ça, entre deux téléphones, un petit café et puis une sieste. Et moi, quand j'ai appris la musique, malgré moi, quand j'ai connu la musique, je prenais froid un peu parce que j'avais ma vie pèlerine, j'allais à la maîtrise et avec les larmes aux yeux.
On peut quand même raconter cette anecdote. Si vous pensez encore aujourd'hui qu'elle est importante, cette anecdote de la rencontre avec la cinquième de Beethoven dans la crèmerie, on peut la raconter, sinon on passe à autre chose.
C'est pas important pour moi, vous savez.
Oui.
Oui, parce que les gens ne peuvent pas imaginer l'impression que j'ai eue ce jour-là. Ma mère venait me voir de temps en temps, un jeudi elle était venue nous voir, lorsque ma mère venait, j'étais content, j'allais pas à la promenade avec les autres, j'allais me promener avec ma mère. On allait du collège jusqu'à... c'était le village de Bordiguère, était à 2-3 kilomètres. J'allais à pied avec elle, elle m'amenait dans une petite crèmerie. Je reconnaîtrais bien sûr aujourd'hui, le même vieilli bien sûr, ce monsieur qui m'apportait le cappuccino, c'est-à-dire le chocolat avec la petite crème. Et il y avait une radio, une des premières, donc c'était donc là, ça c'était en 1929, quoi. Hein. Et de cette radio sort une chose magique, un truc extraordinaire, quoi. Le castor, qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte, le bon Dieu, le crépuscule, l'amour. Le début de la cinquième de Beethoven, et je me suis mis à pleurer immédiatement. Et en étant un peu étonné. Et ma mère me dit, pourquoi tu pleures? Parce que pourquoi tu pleures, petit? Alors je dis, parce que tu vas t'en aller tout à l'heure. C'était pas vrai. Bien sûr, ça m'a embêté que ma mère s'en aille, mais ça ne me faisait pas pleurer. Et j'ai eu honte de lui dire que je pleurais à cause de cette musique. Bon, pour moi, c'était quelque chose de défendu absolument, quelque chose qui me faisait pleurer comme ça, instantanément, sans que j'aie pu l'imaginer une seconde.
Et là, il y a eu une rencontre avec la musique où ça a été un accident qui allait annoncer la suite.
Non, mais c'était... je me suis intéressé.
La portée de cette anecdote, immédiatement
confusément, j'ai dû comprendre que j'étais musicien, mais moi je pensais quand j'étais petit que tout le monde était musicien comme moi, vous savez. Un jour je me suis aperçu que je n'étais pas fait comme tous les autres, qu'en plus de ce que les autres respiraient, mangeaient, allaient se promener, allaient au football, je ne sais quoi, allaient voir les résultats du Tour de France, et puis moi en plus j'avais de la musique. Vous comprenez, un jour je me suis aperçu que j'avais cette chose en plus, à ce moment-là je me suis caché. Voilà, c'est sûr. Et ça dépend aussi de l'histoire. Je me suis caché malgré moi de ma mère, vous voyez. Et ça n'a pas été... ça a été vraiment... C'était l'improvisation de la biologie. Il n'y avait pas de problème. Hein.
Et vous écoutiez de la musique chez vous?
Très peu, parce qu'on n'avait pas de... Vous savez, il y avait le phonographe encore, avec la manivelle, n'est-ce pas? Il y a eu ce qu'on appelle les moyens actuels, beaucoup plus tard, bien sûr, vous l'imaginez. Les phonographes électriques, j'avais des copains qui en avaient, on y allait, c'était extraordinaire. Alors j'ai écouté comme ça des choses. Un jour, on m'avait parlé j'avais entendu parler de Debussy, de Ravel. Ravel, alors je me disais, alors Ravel, alors, il vit ce type, il vit maintenant, donc alors c'est un musicien qui vit, parce que moi, les musiciens étaient morts, vous voyez. Alors il vit, ça m'intéressait terriblement, que le fait que ce type vive. Et un jour, j'ai écouté la Bavane pour la fin des feintes sur un disque chez une camarade à ma sœur. Ça a été fantastique. Bon, moi, je dis, ce type, il a fait ça et il vit. Voilà. C'est bête ce que je dis, mais c'était impressionnant pour moi. Ça voulait dire qu'il vit, donc je peux le connaître. Je peux l'embrasser demain, vous comprenez. Et c'est arrivé en 33, en 31, en 33, je crois plutôt c'est en 33, au moment où il avait écrit le concerto pour la main gauche pour... un pianiste manchot de guerre, qui s'appelait Wittgenstein, qui lui avait commandé l'œuvre. Il avait écrit, je pense que Ravel en plus, c'est une formidable danse macabre qu'il devait sentir. C'était la dernière œuvre importante qu'il ait écrite. Après, il a écrit 2-3 mélodies de Don Quichotte, et puis ça a été terminé, il a perdu le sens de la musique. Et il y avait cette, non pas la création, mais le fait que ce Wittgenstein vienne à Monaco jouer cette œuvre qui était toute nouvelle en définitive. Et il y avait Paré qui dirigeait Daphnis et Chloé et le concerto pour la main gauche, et puis Ravel, qui n'était pas chef d'orchestre, dirigeait lui le Boléro et la Bavane pour l'infante défunte. Alors j'avais un oncle qui était directeur, c'était mon parrain, qui était secrétaire du théâtre à Monte Carlo, et qui me faisait rentrer quand j'étais là, ça devait être des vacances, je pense, dans la salle pour les répétitions. Alors, j'étais pas loin, Ravel m'avait vu, il m'avait souri, et il ne m'est pas venu à l'idée à ce moment-là, comme aujourd'hui, comme ça arrive à des gens, d'aller lui dire, et pourtant, je n'ai même pas pensé, et je le regrette. J'aurais dû me précipiter à lui baiser les mains. Oui.
À partir de là, vous savez que vous ferez de la musique.
Non,
vous voulez être un grand musicien.
Non, vous savez, les musiciens veulent tous être un grand musicien, sinon ils ne créent pas de musique. Hein. Parce qu'un musicien crée de la musique, c'est le grand componiste qui vient de naître, sinon il ne peut rien faire. Avec tout ce qui précède, avec ces grands morts qui viennent nous tirer par les pieds les jours d'insomnie et les nuits d'insomnie aussi, quand on cherche la quadrature du cercle de la musique. Il est bien prétentieux de devoir écrire de la musique après Beethoven, après Wagner, après Debussy, après Stravinsky. Mais enfin, il faut croire qu'il y a quelque chose qui nous pousse. Et puis, moi je prétends qu'un musicien, ça chante, et quand il chante, c'est pas lui qui chante, on le fait chanter par derrière l'autre monde. Non, mais alors je pensais que la musique c'était quelque chose qui m'était défendu, et j'ai tout fait, sans plus, pour ne pas faire de la musique. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai fini le bachot, mon père m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai dit, je sais pas, alors qu'est-ce que tu fais? Alors ma soeur faisait les études dentaires, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais faire les études dentaires. J'ai fait 3 mois de stage dentaire chez un ami à mon père. Je me souviens, un matin, il y avait un ami qui était venu se faire soigner, alors le dentiste, pour me mettre un peu dans le cou, pour m'honorer, en somme, d'être son apprenti, il m'avait dit, regarde, tu prends ça, et puis c'est un jet, comme ça, c'est déjà une sorte de jet, comme on fait maintenant, c'est les choses qui se projettent, comme ça, tu mets près de la gencive de ce monsieur, je vais ouvrir la gencive, alors tu prends, puis tu recules, c'est pas ça, tu l'endors, comme ça, tu endors, puis moi j'ouvre. Alors je l'ai fait, j'étais très fier. Je tremblais tellement que j'avais dans les yeux le liquide en question et que le monsieur, il m'a poursuivi dans tout l'appartement en voulant me taper dessus. Et bien sûr, j'ai laissé tomber, n'est-ce pas? Et j'ai été prof à ce moment-là dans le collège où j'avais été élève, parce que le directeur manquait de prof et était venu me demander. Je suis resté 6 mois.
Prof de quoi?
Prof de tout, de français, d'histoire, et même de... Je crois que c'était pas moi, c'était l'autre qui faisait ça, le catéchisme quand même. Oui, et puis après, j'étais faire mon droit. Donc je me cachais en définitive, vous voyez. Je me cachais. Et puis, pendant la guerre, juste après la libération, je suis parti. J'ai connu Piaf à ce moment-là, qui était une femme qui avait le sens de la poésie. À un point incroyable, parce qu'elle n'avait aucune culture, jusqu'au moment où elle avait le sens de la poésie, jusqu'au moment où elle s'est mise à écrire elle-même. Alors à ce moment-là, tout a été foutu. Elle avait le sens. Je lui disais, Apollinaire, elle était très contente, elle aimait beaucoup ça. Et elle m'avait dit, il faut venir à Paris. Alors je suis allé à Paris, fin 46, en me disant, je chante, je vais essayer de survivre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, en chantant, j'ai pu vivre, gagner ma vie. Très, 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 très mal, mais enfin, vivre. Et après, j'ai pu écrire petit à petit de la musique. Oui. C'est comme ça qu'en 52, entre 52 et 53, non, j'ai fait gratuitement une œuvre. Parce que je dis que les artistes parlent toujours... écrivent toujours des œuvres de circonstances. Là, non, c'était gratuit, c'était la chanson du mal-aimé de Guillaume Apollinaire. C'est bien trouvé parce que Guillaume Apollinaire est né à Rome, a été élevé à Monaco de 1888 à 1895, à l'école des frères de Monaco. Et moi, j'étais à l'école des frères de Bordiquière. Alors, il y a eu une sorte de connivence entre ce grand poète. Vous savez, c'est le dernier grand poète. Je dis qu'au 19e siècle, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Et au 19e, il y a Apollinaire, on attend l'autre. Hein. Donc les poètes, ça court par les rues, quoi.
On va revenir un petit peu en arrière sur ces années d'après-guerre, parce que tout à l'heure on l'a évoqué autour de l'anecdote avec Sartre, qu'on va peut-être rappeler là. C'est les années d'engagement. Après la libération, il y a des tas de choses qui semblent possibles. Est-ce que vous participez à cette...
Non, pas du tout. Vous savez, moi, je suis contre le terme engagement. Engagement, ça veut dire une carte, ça veut dire une signature, ça veut dire se soumettre à des principes ou à des idées, même politiques, données. Or, les idées politiques d'un parti sont toujours les meilleures, comme on sait. Personne ne se trompe jamais. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est que... Et ça, c'est vrai, j'ai appartenu au Parti communiste français pendant 5 minutes. Je veux dire que j'ai appartenu au Parti communiste français avec la carte du parti, avec le numéro de l'année. Ça s'est passé en 48, je crois, 49. J'avais un camarade qui était au Champ du Monde, qui était une maison du parti, une maison d'édition. J'aime autant vous dire que c'est une émission, des émissions d'édition, les maisons d'édition. Sont comme ça à Nur, c'est bien. Les artistes, il doit falloir qu'ils montrent patte blanche et puis attendre les comptes chaque mort d'évêque, comme il ne doit pas mourir beaucoup d'évêques en Russie soviétique. Les artistes doivent crever de faim tranquille. Hein. Cela dit, entre parenthèses, parce que vraiment, ces gens-là ont été très incorrects. Et alors, ce garçon me dit... Dans le quatrième, je suis dans une cellule, il faut que tu viennes, parce que c'est important que tu sois là, c'est important, tu comprends, il faut. Alors moi je me suis laissé faire, parce que au début je me laisse toujours faire, parce que par gentillesse, vous voyez. Et puis je suis arrivé un jour dans cette cellule, pour on me dit, tu viens, on te donne la carte, tu payes le timbre, et à ce moment-là, tu es inscrit au Parti communiste français. Alors je suis allé, il y avait un sous-sol avec une table, on était 6 ou 7, et il y avait le secrétaire de cellule qui, de son sa profession était, de son état, maçon, je crois. Enfin, s'il faisait les maisons comme il parlait, je ne vais pas habiter dedans. Ça n'a pas duré longtemps, je m'en suis... mais je me souviens très bien, et j'ai vite compris, on était assis, mon camarade était à ma gauche, et le monsieur était en bout de table, le secrétaire de la cellule, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il parle politique, je ne me souviens pas, il parle de l'histoire de Maurice Thorez, à ce moment-là, qui était la grande vedette du moment, n'est-ce pas? Tout au moins pour ce parti. Et ce monsieur en question, secrétaire, parlait. Et moi, j'ai trouvé que c'était un peu comme ça, j'ai rien dit. Et mon camarade lève le doigt. Et je vois le secrétaire en question qui dit, tout à l'heure, camarade, comme un prof, quoi. Alors, moi, je me suis levé, il m'avait donné la carte, tout. Il me dit, j'ai dit, moi, c'est pas tout à l'heure, c'est immédiatement. Salut les copains. Et j'ai donné la carte. J'ai dit ça parce que c'est la stricte, ça a l'air d'une histoire inventée. Mais c'est vrai, c'est tristement vrai pour moi, parce que je ne sais pas pourquoi je me suis laissé entraîner à de pareille faiblesse, enfin. Et pour moi, c'est ça un peu l'engagement aussi. Vous savez, moi, je l'ai dit un jour à Sartre. L'engagement, ça n'existe pas. Lui, il a dit, un type qui écrit ne peut plus écrire s'il voit des gens qui meurent de faim. Alors, quand même, j'ai dit, il écrit quand même devant des gens qui sont comblés. Hein? C'est des mots, tout ça. Pourtant, je parle de ça, de ces sujets d'admiration. Mm-hmm. Pour ce type, il a cru, d'ailleurs, il a démontré que lui-même, dans sa vie, et puis il s'était trompé, quoi. Parce que, vous savez, ça, l'engagement, c'est l'artiste doit être vraiment très, très, très indépendant. Hein,
on va y revenir tout à l'heure à propos de la guerre d'Algérie, et je pense à d'autres occasions. Mais à cette époque où donc vous avez une trentaine d'années, il y a eu ce choc énorme de la guerre, vous êtes à Paris, vous voulez chanter, ou en tout cas vous voulez faire quelque chose, vous avez quelque chose à dire. Cependant, ce n'est dans aucune des églises politiques un peu qui sont en place que vous trouvez quelque chose qui vous réponde, qui soit...
Non, pas du tout. Vous savez, vous venez de dire que j'avais quelque chose à dire. Moi, je n'ai jamais rien eu à dire. Vous savez, j'ai dit des choses malgré moi, parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais de la voix, hein, et que j'ai écrit pour que je chante ce que j'écrivais, pour être artiste, pour gagner ma vie comme ça, même mal. Cela dit, il s'est trouvé que j'ai dit des choses, mais je n'ai jamais décidé de dire des messages. Oui, moi, j'envoie pas de message.
Non, je sais bien. Vous auriez pu vous contenter d'être un étudiant en droit, devenir un avocat ou bien un juriste de droit public, voire même être un dentiste.
Oui.
Il y avait quelque chose d'autre en vous. Il y a un besoin qui
non, mais j'ai quelque part. Oh, j'ai été poussé, comme ça, vous savez. J'ai été poussé. Il fallait que je fasse ça, quoi. Vous savez, dans le destin, on s'y fout, hein. C'est vrai. C'est très vrai, ça.
Vous pouvez le traduire.
On ne fuit pas le destin, quoi. On n'évite pas le destin. Littéralement, c'est on ne fuit pas le destin. Dans le destin, non, si fougé.
Donc il n'y a pas de liberté.
C'est par accident. Oh, bien la liberté.
C'est par accident comme... que. Enfin, j'ai employé un mot qui semble bête, mais c'est pas par accident que vous êtes devenu ferré.
Ça, bon, pour moi, ça veut rien dire, parce que moi, je ne suis pas devenu ferré. Moi, je suis toujours Léo. C'est...
Oui, mais vous êtes battu.
Vous pouvez pas avoir un son de
battu.
Ça.
Vous êtes battu pour quelque chose. Quand même.
Oui, mais alors je me suis battu pour. Je me suis battu pour, quoique je ne savais pas tellement bien me battre. Hein. Dans ce que je faisais, pour moi, j'ai fait les choses comme ça, je chantais ce que je pensais chanter. Je ne me suis jamais battu pour ça. Ben, c'était comme ça ou c'était... c'était comme ça ou non. Bon. Mais je ne me suis... Comment dirais-je c'est venu, malgré... Comment dirais-je au fil des jours, je dis toujours, pour qu'on comprenne bien, si on me disait demain, Léo, tu as 20 ans. Voilà, ce soir, c'est fini, tu recommences à 20 ans. Et je dis, mais si je ne le sais pas que j'ai 20 ans, alors ça ne m'intéresse pas. Et si je sais que j'ai 20 ans, je préfère mourir tout de suite.
Pourquoi ?
Parce que si je dois recommencer à 20 ans, en sachant tout ce qui va m'arriver jusqu'à mon âge, j'ai 64 ans, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez ? Et ça, c'est sûrement vrai pour vous aussi, pour n'importe qui, vous comprenez ?
Donc, pas question de rappel et pas question de bis.
Pas du tout, non. Pas du tout, non. Vous savez, l'important, et vous m'avez dit tout à l'heure, c'est demain matin, comme j'ai dit depuis longtemps, et vous êtes de mon avis, je suis content. On a des points communs tous les deux. Ce qui m'intéresse, ce qui intéresse tout le monde d'ailleurs, c'est demain, les gens qui parlent de leur passé. On peut parler des choses qui sont passées pour, avec un sens critique toujours, bien sûr. Ça peut intéresser des gens qui ne vous connaissent pas ou qui ne connaissent pas l'époque à laquelle vous avez... vécu, j'allais dire, à laquelle vous avez appartenu. Moi, je n'ai appartenu à aucune époque. Heureusement, je me suis sorti de tout ça, mais ça a été une chance. Vous savez, moi, je me suis sorti des histoires de collège, des histoires de la religion. J'ai été à la messe tous les jours pendant 8 ans, sauf les vacances, bien sûr. Et c'est énorme, ça, vous savez. Et moi, du premier jour, je me suis extrait de ça. Je lisais, j'ai lu les Voltaire jusqu'à Mallarmé à l'église, vous voyez, en douce, comme ça, dans le livre de prière. Je mettais des petits extraits. C'est intéressant, vous comprenez. Et quand je pense à ça, je suis content.
C'était quoi votre répertoire de la prière, de 46-47?
Mais vous savez, j'avais peu de chansons. J'en faisais comme ça. J'avais La Chambre, le Scaphandrier. J'avais une chanson que je n'ai jamais chantée dans un disque, à propos d'un disque, qui s'appelle L'Opéra du Ciel. J'avais Monsieur Tout Blanc, qui a été écrit en 47 à propos du pape Pie XII. Et puis, je faisais des chansons. Je travaillais avec un type à la radio qui me disait, il y a une émission. Alors, pour moi, une émission, ça me faisait 2 sacs. Enfin, 2 sacs, on ne parle plus comme ça, 20 francs. C'était pas énorme, hein. Et, d'ailleurs, j'ai chômé à ce moment-là des fois, et j'avais pour vivre 4 fois 20 francs pour le mois, hein, en 1951, vous voyez. Et alors, c'est comme ça que j'ai fait des chansons. Alors, j'étais obligé de les faire. Vous voyez toujours les circonstances. Je faisais la chanson pour participer à l'émission de radio, pour gagner les 20 francs. Hein? C'est comme ça que j'ai fait une chanson que vous devez connaître, qui s'appelle Le bateau espagnol. Un jour, en après-midi, j'ai fait vite ça avant d'aller à l'émission, vous voyez. Et c'était intéressant, quoi. Hein?
Est-ce que c'était dur de chanter devant le public?
Oui, c'est une école terrible, le cabaret. Mais je ne me laissais pas faire. Mais c'était dur, quand même. C'était dur parce que j'étais interrompu. Vous savez, les gens qui viennent et que vous avez à 1 mètre de vous, moi j'étais au piano, des pianos droits, petits souvent, c'était le début des premiers pianos japonais, là, qui étaient des pianos table. Et bien, les gens étaient comme ça devant moi, comme je suis devant vous, là. Et alors, ou c'est très bien, ou alors c'est pas bien du tout. C'est très bien lorsque le type est là, ou la personne qui vous voit, Et dans le coup avec vous, mais si c'était quelqu'un qui est devant vous, qui fume une cigarette et qui boit, qui parle à la personne à côté, ça vous apprend votre métier, quoi. Vous comprenez, c'est vrai. Mais on apprend son métier, mais difficilement, bien sûr, parce que c'est pas la scène. Vous savez, le théâtre, c'est plus facile. Hein.
ça marchait pas très fort au début.
Ah non, bon, pour moi, ça marchait très bien, toujours pour moi. Parce que, vous savez, quand on remplissait une salle, c'était 40 personnes, hein, alors bon. Et alors, les gens se parlaient, la publicité, de bouche à oreille. Et ceux qui avaient pu, ils le disaient. Alors, ils venaient. Moi, je remplissais toujours les cabarets, hein, toujours. Mais j'ai mis deux mois à me faire connaître. Voyez. Mais toujours en cabaret, c'était pas palais des sports. Hein. Mm-hmm. Sinon, j'aurais pas continué. Hein.
On va parler un peu aussi de Paris, parce que, bon, vous êtes expliqué souvent là-dessus, mais c'est un thème, c'est un fond commun de beaucoup de vos chansons.
Oui.
C'était quoi Paris quand vous avez débarqué?
Quand j'ai débarqué, avant la guerre ou après?
Avant la guerre.
Avant la guerre, oui, je vous disais tout à l'heure, le Saint-Germain-des-Prés, vous savez, Saint-Germain-des-Prés, je me souviens, il y avait un type qui habitait là, qui s'appelait, oh, c'était un type de l'Académie Goncourt, je me souviens, Léo, je ne sais plus comment, vous retrouverez son nom. Et il était connu, il avait un grand chapeau. Et alors moi j'habitais rue Saint-Benoît, qui n'est pas la même que maintenant, à la pension de l'abbaye, Littré 28-18, et, c'est extraordinaire. Et j'allais des fois par an de demi à chez Lip. Eh bien, exagération comprise, hein, quand même. Mais quand même, c'est pas loin de ça. On traversait, et je vous jure, quand il passait une voiture, on se retournait, quoi. Presque, quoi. Et c'était vraiment le village, c'est vrai, comme on l'a dit.
On va laisser défiler la bande, on va passer une autre.
Il faut, oui.